cinquième et dernier temps de notre série d'émissions en nouvelle diffusion autour du thème de la Révolution française. Nous proposons ce matin de réécouter une émission du 11 février 2016 autour du bolivarisme et des révolutions latino-américaines. En ce 14 juillet, nous allons nous demander si notre révolution joue un rôle dans les indépendances latino-américaines. Au nom de quel peuple d'ailleurs se battaient ces libérateurs latino-américains? Quelles ont été les influences des révolutions américaines et haïtiennes sur ce sud du continent? Ces guerres d'indépendance étaient-elles aussi des guerres civiles, ou comment les acteurs de ces libérations ont-ils évolué au cours des 15 années qui ont conduit aux indépendances? C'est ce que nous allons voir avec Séverine Niattard de la Fabrique de l'Histoire et nos trois invités, Clément Thibault, qui est maître de conférence en histoire à l'Université de Nantes, Geneviève Verneau, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à Paris-Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, et Véronique Hébrard, ingénieure d'études à Paris 1. Bonjour à vous Séverine Niattard,
bonjour
à vous Geneviève Verneau, bonjour à vous Véronique Hébrard, et bonjour à vous Clément Thibault. Alors il faut peut-être en ouverture de cette émission rendre hommage à quelqu'un qui vous rendait régulièrement hommage dans vos travaux, qui a aidé, qui vous a toutes et tous aidé à concevoir peut-être une nouvelle façon d'imaginer ces indépendances latino-américaines. Il s'appelait François-Xavier Guerra et vous avez tous travaillé de près ou de loin avec lui. Pourquoi est-il important dans cette évolution, pourrait-on dire, de l'historiographie française sur ces historiographies justement latino-américaines, Clément Thibault?
Ben disons qu'il a marqué vraiment une rupture très importante, notamment par son livre « Modernidad e Independencia », ce qui n'a pas été traduit en français, ce qui est dommage, en 1992. Et en fait, il opère globalement une double rupture. Premièrement, il dit une chose très forte, que les nations... ne sont pas à l'origine des indépendances hispano-américaines, mais le contraire, ce sont les indépendances qui vont produire dans un ton assez long les nations. Il y a une autre rupture qui est aussi très importante, c'est à rebours de l'historiographie nationaliste et libérale du 19e siècle qui s'était développée autour de l'influence de la Révolution française et autour, je dirais, de la glorification de cette nation. Il dit finalement, on peut comprendre ces indépendances uniquement dans le cadre impérial, espagnol notamment, et c'est la révolution espagnole libérale de Cadix de 1810-1814 qui va produire de façon un petit peu paradoxale l'autonomisme, puis l'indépendance à terme des nations hispano-américaines. Donc toute l'origine, c'est l'Espagne, d'une certaine façon.
Geneviève Verneau, justement, sur cette influence de cette pensée de François-Xavier Guerra sur votre travail et sur le travail de tous ceux et toutes celles qui sont autour de cette table.
Oui, alors l'influence de François-Xavier Guerra, elle est énorme, parce que c'est lui qui nous a formés. Donc on a pensé directement l'indépendance selon ses canons à lui. En l'occurrence, je pense aussi que l'un des apports importants de François-Xavier Guerra, c'était de mettre en évidence le fait qu'au début de ce processus, les sujets américains sont loyaux au roi, sont fidèles au roi, n'ont pas, enfin en tout cas dans leur majorité, ils n'ont pas pour ambition forcément de déclarer cette indépendance. Donc ça nous a amené beaucoup à travailler avec ce canon-là. D'autre part, l'extrême attention qu'il portait aux acteurs nous a aussi obligés à définir véritablement à qui on avait affaire. Voilà.
Séverine Niattard.
Véronique Hébrard à vous alors aussi. Que, si tout n'a pas été dit, et je pense qu'on va revenir sur tous les
sujets.
Il
a préfacé Le Venezuela indépendant, votre ouvrage chez L'Harmattan en particulier.
Oui. Donc, ce que disaient mes collègues, l'apport est déterminant parce qu'il introduit une rupture historiographique très importante. Alors effectivement, ce que disait Clément Thibault sur le fait qu'il faut penser ces indépendances dans le cadre impérial, ce qu'il a fait très important, c'est qu'il a déplacé le curseur chronologique et il nous a amené à penser ces révolutions d'indépendance à partir d'une chronologie espagnole, c'est-à-dire à partir de l'invasion de la péninsule par les troupes napoléoniennes, 1808. Et mis en évidence de ce fait-là que ces révolutions, elles se font à l'inverse de la France, au nom du roi et pas contre lui. C'est-à-dire que l'ensemble des sujets de la monarchie se mobilisent dans un premier temps au nom du roi.
C'est vrai.
Et François-Xavier Guerra, vous savez, enfin, comment lui, justement, il en vient à penser, enfin, à rompre finalement avec l'historiographie traditionnelle? Est-ce qu'il y a dans la société, alors je peux penser au bicentenaire, peut-être aussi des changements historiographiques sur la Révolution française, en l'occurrence, pour analyser justement la différence entre ces deux types de révolutions, peut-être
Clément Thibault.
Eh bien, disons que 92, c'est trois ans après la chute du mur de Berlin, c'est le moment aussi du retour aux politiques. C'est un moment.
C'est
la date de la publication de cet ouvrage qui a vraiment eu un énorme impact dans toutes les Amériques, en Amérique latine notamment. Donc retour aux politiques et retour aussi à une pensée de l'événement, c'est-à-dire d'une histoire à pente forte où des choses peuvent être totalement bouleversées en quelques mois, en quelques années. Et donc la chronologie courte qui propose 1808-1812 montre qu'il y a une capacité de transformation où en 1808 on a une Amérique espagnole extrêmement loyale, fidèle, qui proclame son amour à Ferdinand VII qui vient d'être déposé à Bayonne. Et 1812, vous avez des républiques déjà qui sont constituées avec un discours anti-monarchique très fort. Donc 4 ans, une histoire à pente forte qui réagit contre une historiographie britannique, John Lynch, etc., qui inscrivait, disons, toutes ces indépendances dans un cadre purement national et qui remontait à la construction improbable d'identité qui se serait forgée depuis la conquête et qui construisait sa vision autour de la rivalité entre les péninsulaires espagnols et les créoles américains. Mais bon, explication un peu introuvable, en fait, dans les sources.
Geneviève Verdot.
Oui, c'est aussi une réaction contre, précisément, l'historiographie marxiste des années 70, qui, outre le cadre national dont parle Clément Thibault, avait aussi essayé d'expliquer ses indépendances en termes d'ascension d'une bourgeoisie, là aussi assez improbable, en tout cas dans les canons où on peut l'entendre conceptuellement, vis-à-vis de ces problématiques. Rajouter peut-être aussi, dans le cas de Guerra, avant la publication de Modernidad e Independencia, ces grands articles où il compare justement les révolutions hispaniques avec la Révolution française, qui sert quand même de matrice de réflexion, et où il souligne précisément à la fois les points communs, hein, la rupture, et en même temps l'inversion des modèles.
Alors, voyons donc précisément comment tout cela s'est déroulé. Donc, en gros, vous l'avez dit, 1808, déposition du roi, et donc à partir de ce moment-là, début de réflexion, 1810, véritablement le lancement des opérations militaires, pourrait-on dire, Miranda, Bolivar et les autres, et pendant une quinzaine d'années, mettons, et nous sommes en plein dans ce bicentenaire aujourd'hui, donc des révolutions qui se propagent un peu partout en Amérique latine, sous la tutelle, donc théoriquement espagnole à cette époque-là. Alors, vous l'avez dit les uns et les autres, la révolution de François-Xavier Guerra nous dit qu'il faut le regarder dans le contexte espagnol d'abord, mais néanmoins, il y a toujours des questions qui se posent autour de ces révolutions latino-américaines, et en particulier des influences de la révolution américaine, vous l'avez dit tout à l'heure, Geneviève Verdot, de la révolution française, et également peut-être de la révolution haïtienne. Alors cette question de d'où viennent les influences, y a-t-il des influences, quels ont été, pourrait-on dire, les imaginaires révolutionnaires dans la tête de ceux qui ont produit ces révolutions latino-américaines? Qui veut intervenir en premier? Je ne sais pas, Clément Thibault.
Oui, alors disons qu'aujourd'hui, on peut dire que le triomphe de Guerra est tel que finalement, toutes les indépendances s'expliquent autour de la question de la constitution de Cadix, donc cette constitution libérale que les Espagnols vont adopter pour résister aux Français, mais en adoptant des principes de la politique moderne, la souveraineté de la nation, le principe du vote démocratique, et une constitution très avancée pour l'époque, dans la mesure où les territoires ultramarins sont mis à égalité avec les territoires européens. Vraiment, un député pour 70 000 habitants, incluant les Indiens, notamment dans la citoyenneté espagnole.
Ça voudrait dire que si cette interprétation de François-Xavier Guérin est aussi hégémonique, comme vous avez l'air de le dire, Clément Thibault, on élimine toutes les autres influences qui sont Révolution française, Révolution américaine, Révolution haïtienne ou pas?
Alors non, mais justement, j'en venais là et je pense que aujourd'hui, il est temps aussi d'essayer d'explorer non pas forcément les influences, mais au moins les références, parce que bien évidemment, par l'interface caribéenne, il y a eu une révolution française dans les Antilles, on le sait bien, Guadeloupe, Martinique,
et évidemment Saint-Domingue. Et le Venezuela est tout proche.
Et le Venezuela est tout proche, et donc évidemment, il y a des modèles disponibles quand, en 1808, les rois espagnols abdiquent.
Véronique Hébrard, vous qui êtes spécialiste justement de ce Venezuela indépendant.
Oui, mais justement, le cas de la révolution haïtienne, ou en tous les cas de l'écho de la révolution française en Haïti, est un modèle et un contre-modèle. Puisque dans le cas vénézuélien, ça sert à la fois de matrice pour un certain nombre d'acteurs pour penser une possible révolution, et puis ça sert aussi de contre-modèle et de repoussoir pour les élites blanches, pour qui cet exemple d'Haïti fait peur.
Oui, parce qu'effectivement, ça peut être le massacre des Blancs par les Noirs, ça peut être toutes ces questions-là.
Il y a de fait des circulations d'acteurs, aussi bien d'esclaves en fuite sur les côtes vénézuéliennes,
que de soldats haïtiens qui s'engagent aussi, voilà. Et de soldats haïtiens qui s'engagent aussi dans les armées révolutionnaires, en l'occurrence.
Donc, pour rebondir sur ce que disait Clément Thibault par rapport à ces modèles, ou en tous les cas, ces expériences disponibles dans lesquelles les acteurs des indépendances peuvent puiser, c'est que ces acteurs eux-mêmes, ils sont très mobiles et qu'ils ont fait des expériences révolutionnaires très concrètes. Miranda en France. Donc ils ont, au-delà d'un modèle théorique, ils ont aussi des expériences propres qu'ils ont été vivre ailleurs.
Mais là, vous parlez des acteurs directs, Véronique Hébrard, enfin, on prend aux héros un peu là, de cette émancipation, mais par ailleurs dans ces sociétés il va y avoir différentes strates et puis des acteurs qui vont prendre le devant de la scène enfin de surcroît ou par la suite, enfin je pense notamment à l'analyse que vous faites vous à la fois du peuple des lumières, vous parlez des personnalités qui ont un peu une vision des lumières, et puis peut-être d'une strate plus élevée aussi de la société, et de ce triptyque qui doit se coordonner justement à travers cette révolution.
Alors, on est face à des sociétés qui sont très hétérogènes. Socialement, ethniquement. Donc on a effectivement une élite
Elles ont pensé, ces sociétés, leur hétérogénéité, justement, avant même que la révolution ne se déclenche.
Elles ont vécu, surtout.
Oui.
Et elles l'ont pensé, oui.
Oui,
oui, profondément.
Oui.
Parce que c'est une expérience de plusieurs siècles, tout simplement.
Les sociétés coloniales se sont construites sur cette hétérogénéité.
Et elles l'ont terrorisée, d'une certaine façon.
C'est une pratique quotidienne. C'est le système qu'on appelle le système des castes, avec différentes couleurs qui vont organiser et structurer la société. Et la grande crainte, justement, qui est théorisée ou qui est ressentie par les autorités coloniales, mais bien avant le déclenchement de la révolution, c'est l'effondrement et la guerre des couleurs. Et Haïti représente cette guerre des couleurs, des races et des couleurs, comme le disent certaines sources.
Alors, Geneviève Verdeau, vous êtes vous-même spécialiste de l'Argentine et vous avez écrit un livre aux publications de la Sorbonne sur cette indépendance argentine. On est quand même très loin quand on est dans le Rio de la Plata d'Haïti et donc on n'est pas peut-être aussi influencé. En tout cas, on n'a peut-être pas les mêmes échos de ce qui s'est passé dans cette révolution haïtienne, de la révolution américaine ou encore de la révolution française.
Oui, bien que les idées et les textes
circulent
aussi. En revanche, effectivement, au Rio de la Plata, on est moins menacé directement par la guerre des couleurs, etc. La guerre de couleurs, parce que il y a des esclaves, mais il y en a moins, ils n'ont pas le même rôle, il n'y a pas de grandes plantations, etc. Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur l'influence où il y a plutôt la référence française, ne pas oublier non plus qu'en 1808, Napoléon a envahi l'Espagne. Mmh. Et que donc, il y a là un brouillage total, parce que déjà...
Théoriquement l'héritier de la Révolution.
Il est théoriquement l'héritier de la Révolution, mais déjà, au moment de la Révolution, il y a eu une contre-offensive extrêmement forte de la monarchie contre les idées de la Révolution. Et donc, en 1808, la France est l'ennemi. Donc, très peu s'en réclament, même si on sent effectivement que l'expérience française, il vaut mieux parler effectivement d'expérience que de modèle, l'expérience française est dans les têtes et donne des outils pour penser éventuellement à certains acteurs, à certains radicaux, ce qu'on taxe précisément de jacobins. En tout cas, c'est plutôt un modèle négatif. Et pour les États-Unis, c'est pareil, c'est une boîte à outils dans laquelle on puise, davantage au moment de l'indépendance d'ailleurs qu'au moment de la Révolution.
Oui, vous avez vous-même travaillé, Clément Thibault, sur certaines références, pourrait-on dire, presque bibliographiques, de certains types de ceux qui ont mené des révolutions, en particulier du côté du Paraguay, et de la façon dont ils ont été formés par des académies à la fin du XVIIIe siècle, en Bolivie en particulier. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ont quoi? Ils ont des lectures? Ils ont Rousseau, Voltaire ou très peu, par exemple?
Alors ça, c'est la question des précurseurs contre laquelle l'œuvre de Guerra est un petit peu élevée et qu'il faudrait reposer, je pense, non pas en termes d'influence, mais de référence, parce que les Lumières françaises sont très bien connues. Montesquieu est vraiment une idole, hein, et ça va être une grande référence pour Bolivar et après pour Chavez, ce qui est assez amusant. Il faut voir que sur le plan intellectuel, je pense que d'une certaine façon, la référence pendant les révolutions, à la Révolution française, la référence ne peut pas être dite de façon explicite, dans la mesure où cette Révolution française, c'est Robespierre, c'est la terreur, c'est l'impiété. Mais on voit dans les modèles constitutionnels, dans les constitutions, qu'il y a des références, par exemple, à la période du Directoire.
Et puis, tout de même, au-delà de la Révolution française, il y a les références que les révolutionnaires français avaient même en tête. Est-ce que les Libertadores de l'Amérique latine avaient aussi Sparte et Athènes en tête? Est-ce qu'ils avaient pensé à ces modèles de l'Antiquité grecque et romaine qui ont tant servi aux révolutionnaires français et aux révolutionnaires américains et qui peut-être ont aussi transfusé d'une façon ou d'une autre dans cet espace latino-américain, Geneviève Verdeau?
L'idée de congrès, d'assemblée, je ne sais pas, au niveau des institutions aussi.
Oui, ces références-là sont mobilisées plus généralement dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la culture républicaine de l'époque, en fait, une culture républicaine d'ancien régime, ce qui est paradoxal, oui. Mais où effectivement ce classicisme ressort, davantage dans certaines régions que dans d'autres, hein, il faut le dire. Un de nos collègues et amis, Georges Lognet, a fait une belle étude de ces questions pour Santa Fe de Bogota, par exemple, où là, il y a tout un ensemble, un aéropage, effectivement, d'hommes des Lumières qui mobilisent beaucoup ces références. On pourrait aussi, en marge des révolutionnaires français, citer d'autres courants peut-être moins connus, mais très développés en Amérique latine, comme par exemple les Lumières napolitaines,
ah oui,
qui, plus modérées, du coup, s'adaptent mieux d'une certaine façon à cet espace, en particulier avec le napolitain Gaetano Filangieri, qui a eu une diffusion extrêmement importante.
Véronique Hébrin.
Oui, sur cette question de la référence à l'Antiquité, il y a effectivement une forte présence, que ce soit dans la pédagogie citoyenne aussi, et puis une référence importante dans la mesure où l'échelle de gouvernement, c'est la cité, et qui renvoie immédiatement à la cité grecque, et sur laquelle on va s'appuyer pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Simon Bolivar, Simon. Tu voz, como cantera que va, señalando rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad.
se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. En el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tenía razón.
Un titre de Milva de 1975, Simón Bolívar, ce représentant du peuple profond, tel qu'il il est décrit ainsi théoriquement dans cette vision-là. Non, mais c'est voilà, ça c'est la mythologie, pourrait-on dire, et il y a la réalité. Au nom de qui sont ces gens qui vont faire la révolution ou les révolutions latino-américaines, Geneviève Verdeau, et de quelle classe sociale, à quelle classe sociale appartiennent-ils et
pour surtout quel est qui aussi.
Oui, et pour émanciper qui quel est le peuple avec un P majuscule ou quels sont les peuples qu'ils veulent émanciper en l'occurrence?
Bon, on va aller très vite. La plupart de ceux qui initient effectivement tant la formation des gouvernements révolutionnaires que les mouvements militaires appartiennent aux élites. Aux élites commerçantes, aux élites intellectuelles, politiques aussi. Éventuellement.
C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec l'administration.
Ils ont pu travaillé... effectivement faire partie, pour certains en tout cas, de l'administration royale et ou ont eu des fonctions dans l'administration municipale des capitales, dans les corps constitués, les consulats de marchands, etc. Alors pour émanciper qui? Pour émanciper leur communauté. Et là... Finalement, je ne réponds pas à la question parce que leur communauté a des contours qui peuvent être flous. En tout cas, pour émanciper peut-être d'abord effectivement des territoires, des juridictions avec leurs habitants. Ensuite, et là je vais laisser la parole à mes collègues qui s'y connaissent mieux que moi, le peuple concret qu'il y a derrière, évidemment, inclut d'autres classes de la société.
Véronique Aymerin.
Bien au-delà des élites.
Véronique Aymerin.
Oui, alors bien sûr que cette indépendance, elle est portée par des élites. Elle est aussi portée par un peuple concret qui s'engouffre dans ce mouvement révolutionnaire, mais pas de façon uniforme ni univoque, puisque très vite, on va voir des divisions. Ce qui est sûr, c'est que cette révolution, elle se fait au nom d'un peuple, qu'elle se fait au nom d'idéaux puisés du libéralisme et qui postulent la souveraineté de ce peuple. Et donc, en principe, son droit à donner sa voix et à être citoyen. Donc, c'est sur cette tension que vont se construire ces indépendances et qui explique aussi le caractère civil des guerres d'indépendance, puisqu'elle est portée par beaucoup de paradoxes. C'est-à-dire qu'au-delà de cette volonté, il y a aussi cette crainte qui rejoint ce dont on parlait concernant les révolutions haïtiennes. Il y a cette crainte d'un débordement populaire à travers cette mise en œuvre d'un projet
libéral. C'est-à-dire comment émanciper tout en évitant le renversement total de la société dans laquelle on vit, des hiérarchies.
Et comment faire autrement? Puisque d'une certaine manière, comme c'est tellement pas préparé, enfin vous le dites tous les trois, c'est inattendu, c'est l'histoire d'une révolution inattendue, non préparée, non théorisée, et qui va in progress, si je puis dire, se construire et construire ses revendications nationales, enfin d'une certaine manière.
Clément Thibault.
Je crois qu'il faut revenir aussi au mot espagnol de pueblo, qui veut dire peuple, mais qui veut dire aussi cité. Village, c'est-à-dire un lieu d'interconnaissance, et revenir aux problèmes pratiques qui se posaient à l'Amérique espagnole lorsque la monarchie a été décapitée en 1808, les Espagnols dans leur ensemble ne reconnaissant pas, ils ont dans leur grande majorité Joseph Ier Bonaparte, le nouveau monarque. Et donc le problème pratique, c'est la question d'un vide du pouvoir. Et c'est comment reconstituer la souveraineté par en bas, et qui sont les titulaires de la souveraineté. Et ces titulaires de la souveraineté qui se ressaisissent de cette souveraineté, ce sont les cités en fait, ce sont les peuples, donc ce sont des élites municipales qui se saisissent du pouvoir. C'est avec la guerre civile que d'autres peuples, des peuples qui ne sont pas des peuples incorporés, c'est-à-dire des cités, des villages, des élites municipales, qui vont surgir dans les armées, et notamment toutes les minorités ethniques, les Indiens, les métis, les mulâtres, voire les esclaves, qui vont être mobilisés par les deux armées.
Oui, la fragmentation, du coup, c'est ça?
Il y a une fragmentation
totale de ces émancipations.
Il y a un effondrement de la centralité impériale, effondrement de l'Empire. L'Empire espagnol est un puzzle, et là, il faut rappeler qu'il y a deux solutions qui sont choisies. C'est-à-dire qu'il y a l'Espagne loyaliste, mais qui est libéral, qui est aussi révolutionnaire. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre-révolutionnaires.
Elle a rompu avec l'ancien régime, pour autant dire, d'une certaine façon, cette Espagne.
Et certaines mais ils reconnaissent la constitution de, ils vont reconnaître le travail de la constitution de Cadix. Et puis, ils vont rester dans le sein de l'Empire espagnol jusqu'au moins en 1820. Et puis, ça, c'est la Nouvelle-Espagne, c'est le Pérou, les vieilles terres de la monarchie espagnole. Et puis, vous avez des terres qui vont évoluer vers le républicanisme. Alors là, pour le coup, le paradigme de Cadix ne nous explique pas bien pourquoi ce choix républicain, qui paraît étonnant, et qui est lié, à mon avis, à la guerre civile, qui vont choisir la voie, d'abord, de l'autonomie, de l'indépendance et de la confédération, parce que pour... rassembler ces fragments de souveraineté que sont les cités, il faut confédérer.
Oui, et alors, nous-mêmes, ce qui est très étrange, c'est que ce Bolivar, ce San Martín, ou ces grands libérateurs de ce territoire, ont une vision du peuple, dites-vous, les uns et les autres, qui est assez particulière. Ils pensent que le peuple avec un petit P n'est pas souvent à la hauteur du peuple avec un grand P, celui qui serait celui au nom duquel on se bat. Ils ont parfois des expressions extrêmement particulières. Et ce qui est intéressant, en vous lisant tous, c'est comment, dans le neuf qui est en train de se passer, des anciens schémas sont encore extrêmement à l'œuvre. Par exemple, ce schéma de Bolivar qui dit que l'Espagnol américain a fait de son esclave le compagnon de son indolence, qu'au bout du compte, il y aurait une sorte de société beaucoup plus douce qu'on ne le dirait malgré l'esclavage, par exemple dans certains territoires latino-américains. Et on se dit, tout compte fait, voilà Bolivar qui est un libérateur, mais qui en même temps a encore des schémas qui sont des schémas de l'ancien régime en tête. Est-ce que c'est la même chose? Oui, non, c'est très intéressant cette question de cette mue rapide, puisque vous dites que c'est rapide, en l'occurrence Geneviève Verdeaux.
Mais cette mue rapide, c'est le propre des périodes révolutionnaires. C'est-à-dire que ce sont des hommes de l'ancien régime qui la font, cette révolution, et qu'ils sont dans les anciens schémas parce que c'est leur culture politique. Et la vision qu'ils ont du peuple, en fait, n'a rien à envier à celle qu'ont les libéraux à la même époque ailleurs, et qui va durer, en fait, pendant très longtemps. Il n'y a pas de démocratie là-dessous. Il y a une pensée de l'égalité civile, mais il n'y a pas une pensée de l'égalité sociale.
Véronique Ebrard.
Alors d'abord, oui, effectivement, ce sont des hommes des Lumières, donc des hommes du XVIIIe siècle qui font ces révolutions et qui apprennent à penser l'individu. C'est-à-dire que au cœur de la révolution libérale, c'est l'émergence de l'individu. Or, c'est quelque chose qui est antinomique avec ce qui prévaut dans des sociétés d'ancien régime, où l'individu, il est d'abord à l'intérieur de communautés ethniques, de cités, ces espèces de communautés d'interconnaissance appartiennent à des milices en fonction de leur appartenance ethnique. Donc, cette société, elle est corsetée, elle inclut l'individu dans des corps. Et tout d'un coup, on fait une révolution qui doit mettre au premier plan l'individu et son rôle en tant que citoyen, potentiellement. Et c'est cette tension-là qui fait peur.
Oui, et on va chercher dans cette mobilité sociale, parce que c'est aussi une grande mobilité sociale, une révolution des révolutions. On le sait pour la révolution française à la même époque, c'est la possibilité pour certains de se mouvoir dans la société beaucoup plus rapidement. Et par là, on va passer, c'est ce que vous racontez dans votre République en armes, les Républiques en armes, Clément Thibault, par ce soldat citoyen, ce soldat qui va être peut-être même le citoyen par excellence, expliquez-vous parfois, Clément Thibault, dans ces révolutions latino-américaines.
Oui, disons qu'on peut dire que comme le conflit a duré, il y a plusieurs générations révolutionnaires et plusieurs phases qui sont nettes. Il y a une première phase qui est effectivement assez aristocratique, centrée autour de la figure des cités. Une révolution qui est plus modérée, qui veut éviter les erreurs de la Révolution française ou de la Révolution haïtienne, ou ce qui est vécu comme des erreurs. Et puis à partir du moment où la guerre civile se déclenche, et en grande partie parce que les loyalistes vont mobiliser beaucoup les groupes populaires, on va dire, voire les esclaves, en leur promettant la liberté, eh bien, républicains, qui sont encore des républicains d'ancien régime, c'est-à-dire que dans la monarchie espagnole, les élites municipales, on les appelle les républicains bon père de la patrie. Hein. Donc ces républicains d'ancien régime deviennent des républicains modernes et donc vont avoir un discours beaucoup plus égalitaire, justement pour permettre de recruter des soldats. Et dans cette phase, disons, plus violente, on peut dire qu'au Venezuela, il y a un second Haïti. Hein. Vous avez le quart de la population qui va disparaître. C'est extraordinaire. Violent, même si le problème de la violence n'apparaît pas dans l'historiographie hispano-américaine comme telle, eh bien, vous avez des hommes nouveaux qui vont surgir, effectivement. Vous avez des hommes nouveaux qui viennent de la, je ne sais pas comment le dire, mais disons la petite bourgeoisie, voire des classes populaires, des noirs, des mulâtres, des métis.
Véronique Hébrard qui avait travaillé sur la Venezuela.
Oui, ce qui se joue par rapport à ce que dit Clément Thibault dans ce processus de mobilité sociale, c'est qu'effectivement dans les guerres d'indépendance, eh bien, on rentre dans des corps armés qui sont plus ou moins informels en fonction des moments de la guerre, hein, ces milices puis des armées plus régulières, et que ça crée une forme d'ascension sociale. Et ce qui est très intéressant dans le cas vénézuélien, encore plus que dans le cas néo-grenadin peut-être, c'est que cette ascension sociale, elle est actée au niveau législatif, puisque dans un temps très court, certes, on donne le droit de vote à tout homme qui a participé aux guerres d'indépendance, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa couleur.
C'est brillant.
Et la violence aussi de ce conflit et comment la guerre devient un peu le point central de ces émancipations, vous dites, notamment Clément Thibault, que de ce fait, il va falloir choisir son camp. Ça va aussi partitionner d'une certaine façon. On est pour ou contre ? Et c'est aussi de ce fait, j'imagine, que ça va provoquer énormément, une guerre civile, d'abord,
oui,
et énormément de
alors,
de
c'est une guerre civile, sans doute, depuis le début. Hein. Une guerre civile, je dirais, de basse intensité, peu violente, entre des cités, celles qui choisissent l'Espagne métropolitaine et celles qui choisissent une voie vers l'autonomie. Et progressivement, la grosse erreur des Espagnols de Cadix, c'est d'avoir exclu les libres de couleur, les mulattes de la citoyenneté. Et ça, dans les territoires, justement, où ils sont très nombreux, comme justement le Venezuela et la Nouvelle-Grenade, c'est une mesure qui ne va pas passer. Progressivement, les alignements vont se faire, des alignements entre, d'un côté, des républicains qui seront indépendantistes, et de l'autre, des royalistes qui seront loyalistes. Mais ces alignements, en fait, vont prendre beaucoup de temps à émerger et passent par, notamment dans l'espace bolivarien, par la proclamation de la guerre à mort, une guerre sans quartier, qui est extrêmement violente et brutale et qui va bien séparer les deux camps.
Oui, Geneviève Verdeau, il faut tout de même se souvenir qu'il faut plus d'une dizaine d'années pour que se stabilisent justement ces révolutions les unes et les autres, et qu'elles sont marquées par des revers, des reconquêtes, des royalistes, et que effectivement tous ces territoires sont des territoires qui ont été parcourus en tous sens. Défaite des uns, des révolutionnaires, de Bolivar ou des autres, défaite de San Martín ou d'autres, et puis reprise en main par les royalistes, et puis ensuite reconquête, etc. Et que tout cela, ça marque des territoires qui ont été parcourus en tous sens et violenté en tous sens par ces armées d'un côté et de l'autre, en l'occurrence Geneviève Verdeau.
Absolument. Et ce qui détermine dans une large mesure l'organisation des nouvelles nations est lié précisément à ces guerres et à ces différentes... cette militarisation. Le Rio de la Plata étant au fait une exception dans ce cadre, puisque c'est la seule région qui n'est pas reconquise par les armées royalistes. Et qui, au contraire, va contrecarrer les efforts menés par le vice-roi du Pérou pour reconquérir tout le cône sud. Parce qu'en réalité, il ne faut pas non plus avoir l'impression que toutes les armées de reconquête viennent d'Espagne. C'est le cas pour partie dans l'espace vénézuélien et colombien, mais dans ce qu'on pourrait appeler le cône sud maintenant, c'est-à-dire
Chili,
Argentine,
Bolivie,
voilà, c'est le vice-roi du Pérou qui mène la guerre. À la fois vers le nord et vers le sud. Donc le Pérou, c'est vraiment le nœud de ces opérations militaires.
Et vous avez travaillé, Véronique Hébrard, sur ces populations civiles qui sont embringuées, malgré elles, parfois parce qu'elles le veulent, mais la plupart du temps malgré elles, dans ce conflit sans fin qui va durer plusieurs années, justement dans les territoires du Venezuela, par exemple.
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le propre d'une guerre civile, c'est qu'il faut d'une certaine façon choisir son camp. Donc il y a ce phénomène-là qui va jouer, et il y a le fait qu'on n'a pas d'armée régulière, donc il faut former des corps de milices, et que dans les corps de milices, on fait rentrer tout le monde, y compris les esclaves. Et puis d'autre part, parce que ce moment des indépendances, qui débouche sur une guerre, est aussi l'occasion de régler d'autres types de conflits, puisque même si ces indépendances n'ont pas été préparées à l'avance, elles s'assoient d'une certaine façon sur des sociétés qui étaient très conflictuelles. Que ce soit des conflits d'ordre raciaux, des conflits de terres. Et dans les procès que j'ai pu travailler, on voit très bien qu'un certain nombre de conflits du quotidien de ces populations se rejouent et tentent de se dénouer à la faveur de la guerre civile.
Thank you.
La Libertadora, donc une composition d'un compositeur non identifié, mais dédiée à Simon Bolivar à l'occasion de son entrée à Bogota en 1819. Alors, c'est une question. La révolution a du mal à s'imposer, on l'a dit. Il y a des reprises en main des forces royales espagnoles. Et au bout du compte, tout de même, elles s'imposent, ces révolutions. Difficilement, mais elles s'imposent. Et une fois qu'elles sont imposées, il faut... décider. Quand on a été combattant, quand on a été chef de guerre, il faut ensuite devenir le chef ou les chefs de la paix nouvelle qui s'instaure dans ces territoires. Et donc, imaginer une nouvelle administration, une nouvelle façon de représenter les populations. Comment cela se passe-t-il, Clément Thibault, dans ces territoires latino-américains après la réussite des indépendances ?
Ben disons que ça se passe assez difficilement, hein. Parce que si la révolution commence, on va dire, avec des curés et des avocats, au départ, elle est consommée grâce à l'action des militaires. Et donc, il y a une militarisation des États sur fond d'un idéal qui est un idéal essentiellement républicain et libéral, hein, et qui s'inspire notamment des œuvres de Benjamin Constant, des idéologues français qui sont des références assez importantes.
Montesquieu
aussi, comme référence, qui est souvent cité par Bolivar dans son fameux discours d'Angostura. Disons que la difficulté, c'est que la société qui surgit des années 1810, c'est une société qui est profondément militarisée, avec des pouvoirs locaux extrêmement forts, ce qu'on va appeler des caudillos, qui vont marquer l'histoire de l'Amérique latine tout au long du 19e siècle. Évidemment, ces caudillos ont créé des sphères de pouvoir locaux qui sont extrêmement puissants. Donc d'un point de vue pratique, pour Bolivar, ça va être le grand problème, ça va être comment associer ces caudillos à la construction de républiques libérales, et ça va être évidemment par les mécanismes du vote et la construction d'une nouvelle super-république qu'il va appeler la Colombie, et le projet
qui durera
vise...
peu de temps.
Et qui va durer peu de temps, jusqu'en 1830, mais quand même. Et le projet qui est plus général, c'est peut-être de créer un régime républicain qui ferait de l'Amérique le continent de la liberté face à une Europe qui est une Europe monarchique et légitimiste.
Mais tout de même, Véronique Hébrard, on voit bien qu'il y a des tensions énormes dans ces nouveaux territoires nouvellement devenus indépendants. Tensions, par exemple, entre centralité et périphérie, entre fédération ou volonté centralisatrice des uns ou des autres, et qu'il y a des questions de marge, des questions de tension entre tel territoire et tel autre territoire plus centralisé, entre des capitales qui sont instaurées et des territoires plus lointains, par exemple. Ça, c'est important.
Alors, cette question de la centralité, des marges, de la fédération, du centralisme, elle joue à plusieurs échelles. Elle joue à des échelles très petites, à l'intérieur d'un espace comme celui du Venezuela, qui deviendra la nation vénézuélienne, où là, il y a des tensions déjà entre un centre, Caracas, et des cités qui refusent de prêter allégeance à cette capitale. Là aussi, pour des conflits antérieurs, hein, à la période des indépendances. Et puis, il y a toute la tension au niveau plus régional, voire à l'intérieur de l'Empire, sur comment réorganiser finalement ces pôles de souveraineté, soit de façon fédérale, ou confédérale, avec des connotations qui sont parfois inversées par rapport au soi-disant modèle américain.
Et oui. Clément, Geneviève Verdeau.
Oui, ce qu'il faudrait, je pense, rajouter, c'est qu'il y a en fait une révolution à l'intérieur de la révolution ou une indépendance à l'intérieur de l'indépendance. C'est-à-dire que ces différents corps territoriaux, ces différentes cités, cherchent elles-mêmes à s'émanciper du pouvoir de tutelle qui est toujours la capitale, en fait, de
l'ancienne capitale coloniale.
L'ancienne capitale. Alors, dans le cas du Rio de la Plata, c'est particulièrement frappant parce que tant qu'ils font la guerre, Buenos Aires arrive quand même à tenir à peu près en main, non pas l'intégralité d'ailleurs de ce qu'était la vice-royauté, mais en tout cas la majeure partie. Et, mais une fois la guerre consommée ou en voie de se consommer, elle ne tient plus rien, le pouvoir central s'effondre et à ce moment-là, ce sont une dizaine de provinces souveraines qui s'érigent en fait sur les décombres l'ensemble de cette ancienne vice-royauté.
Oui, mais par exemple, il y avait aussi dans cet espace-là la très importante ville de Cordoba, qui était l'ancienne capitale jésuite, par exemple, etc., et qu'on va marginaliser aussi d'une certaine façon.
Qu'on va marginaliser au début de la Révolution, mais qui prend sa revanche d'abord en déclarant son indépendance une première fois en 1815 et une seconde fois en 1820, et qui devient à ce moment-là le pôle autour duquel se crée, ou tente de se créer une nouvelle fédération.
Mais fédérer, donc c'est l'entité, c'est les Amériques. Alors comment, Clément Thibault, à l'intérieur duquel il n'y a pas des petites nations, hein, on est très très loin de cette idée-là, hein, cette idée peut-être reçue, mais des cités donc qui essaient de construire une indépendance, mais qu'il va falloir...
Disons qu'il faut bien comprendre qu'il y a une grande précarité identitaire, notamment au niveau territorial, et donc les limites sont extrêmement floues, elles vont le rester pendant très longtemps. Et l'idée, c'est pas tellement de créer une nation avec un peuple, je dirais, un peuple qui aurait une identité particulière. L'idée, c'est vraiment de créer un régime de liberté qui serait l'antithèse d'un ancien régime espagnol renvoyé à sa légende noire, d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a un mot qu'il faut dire ici, c'est le mot de constitution. La constitution, c'est vraiment le lieu symbolique et pratique où toutes ces tensions politico-sociales vont jouer. Sur le temps long en Amérique latine, avec une volonté justement de constituer à la fois politiquement les territoires, reconstituer la société, c'est le lieu de toutes les attentes, vraiment.
Avec ces institutions, du coup, la constitution avec, alors quoi, un congrès,
la définition de la citoyenneté, qui, pour l'époque, quand même, il faut le dire, parce que ça repose la question, est-ce que ce sont des révolutions révolutionnaires? Une conception de la citoyenneté extrêmement large pour l'époque, quasiment le suffrage universel masculin dans certaines régions. On est quand même dans les années 1810-1820, c'est exceptionnel dans le monde. Donc la question de la citoyenneté, après il faut voir comment ça s'applique sur le terrain, c'est plus compliqué. Et puis une recherche, une quête d'une construction d'un État centraliste ou fédéraliste, avec une ouverture qui va se faire dans le congrès de Panama 1826, vers cette notion d'une Amérique confédérée qui résisterait à la reconquête possible de l'Europe, mais qui serait un territoire de liberté républicaine.
Et tout de même, Geneviève Verdeau, quand on crée ces nouvelles nations, il y a aussi la question de comment faire des citoyens qui croient dans ces nouvelles entités territoriales. Donc comment créer du patriotisme? Ce patriotisme se crée-t-il si facilement que cela pour les territoires sur lesquels vous avez travaillé, pour l'Argentine par exemple?
Alors justement, il n'y a pas de patriotisme argentin, parce que la nation argentine, il n'arrive pas à la créer. Ouais. Mais il y a un patriotisme américain extraordinairement fort qui est associé à la volonté précisément de libérer l'Amérique du joug, entre guillemets, du despotisme espagnol. Donc en réalité, il y a au départ un patriotisme qui est assez idéologique finalement, enfin... qu'on peut qualifier de libéral ou de patriotisme anti-monarchique, anti-espagnol, et qui vraiment pénètre assez profondément dans le corps des populations, enfin, qui touche beaucoup de gens. Après, la question du nationalisme, c'est une question qui se pose beaucoup plus tardivement. Les acteurs sont des acteurs d'abord de leur communauté d'appartenance, c'est-à-dire de leur cité, de leur pueblo, de leur province, et c'est autour de ça que ça s'agglutine.
Véronique Emra.
Oui, il n'y a pas de sentiment d'appartenance à une nation. Il y a le sentiment d'appartenance à une communauté. Alors la guerre va forger des identités particulières. Elle peut nourrir un sentiment d'appartenance un peu plus concret. Alors si on reprend le cas de la République de Colombie, et à l'intérieur de cette République, le Venezuela, qui est divisé en départements, cette volonté de quitter la République de Colombie nourrit au moins dans le discours. Alors après, pour aller saisir au niveau des acteurs, c'est plus difficile, mais au niveau du discours...
C'est-à-dire que cette République de Colombie couvrait le Venezuela, l'Équateur, la Colombie actuelle et Panama. Donc elle était beaucoup plus large que ce que
Le Venezuela est divisé en départements, et donc ça nourrit effectivement un sentiment de frustration, au moins dans le discours, et tout un vocabulaire qui commence à surgir de « mais nous, on est différents ». Et le fait d'avoir à se positionner comme différent peut nourrir...
Clément Thibault.
On peut décliner aussi cette question du patriotisme populaire autour de différents groupes, hein, vraiment à grand trait. C'est-à-dire, que veulent les gens et pourquoi ils vont soutenir ou pas ces nouvelles républiques qui se créent. On peut dire globalement que, évidemment, les esclaves veulent la liberté. Là, les deux camps vont leur promettre la liberté. cette liberté ne va... Disons qu'il y a des décrets d'abolition quand même graduels qui sont pris dans un certain nombre de pays. C'est pourquoi un certain nombre d'esclaves vont s'engager dans les armées, etc. Vous avez un groupe qui nous intéresse particulièrement dans certaines régions, les Antilles, puis Venezuela, Colombie, Panama, qui est le groupe des libres de couleur. C'est quand même la majorité de la population. Eux, ils veulent l'égalité avec les Blancs. Hein. Et c'est ce que les républiques vont leur donner, d'une certaine façon, même s'il y a des restrictions. Et donc, on peut dire qu'il y a un certain attachement qui va se créer de ce point de vue-là.
Donc ça, c'est un changement social aussi, d'une certaine façon.
Il y a les Indiens aussi, excusez-moi de vous couper. Et les Indiens, globalement, c'est... ils veulent les libertés communautaires. Hein. C'est-à-dire, ils veulent l'autogouvernement, retrouver un autogouvernement que les derniers Bourbons leur avaient un petit peu renié. Et évidemment, au départ, les républicains ne le comprennent pas, parce qu'eux, ils veulent des individus, des citoyens libéraux, indépendants, qui participeraient à un marché. Donc, ils ne veulent pas de la propriété collective des Indiens.
Oui, parce que pour eux, d'une certaine façon, ce serait un retour à l'ancien régime que de laisser ces communautés regérer comme ils le faisaient leur territoire, en l'occurrence Geneviève Verdeau.
Absolument, sauf que pour les communautés indiennes, la liberté, c'est ça. C'est de pouvoir gérer collectivement leurs terres, administrer leurs biens, élire leurs autorités. Et dans certaines régions comme la Nouvelle-Espagne, par exemple le Mexique, où est appliquée très longtemps la constitution de Cadix, c'est précisément ce que cette constitution libérale espagnole leur permet de faire. Et ça va durer très très longtemps.
Et donc on voit bien qu'il y a là encore des ferments de tensions, d'oppositions qui vont faire qu'effectivement... ces nouvelles nations nées des indépendances vont avoir du mal à s'imposer dans la durée, en l'occurrence, Véronique Aymard.
Oui, ce qui est intéressant en écoutant mes collègues, c'est quelque chose dont je voulais parler tout à l'heure, c'est que on voit bien qu'il y a un vocabulaire aussi que s'approprient les acteurs et que chaque type d'acteur, chaque groupe d'acteurs investit de sens ce vocabulaire nouveau et révolutionnaire, celui de liberté, d'indépendance. Qu'est-ce que ça signifie quand on est esclave, quand on est effectivement ce qui est intéressant, c'est ce qui génère aussi des tensions, c'est-à-dire qu'il y a des projets concurrents finalement qui sont en train de s'élaborer dans ces différents segments des sociétés et qui vont générer aussi de la tension.
Est-ce qu'on peut espérer, on pourrait terminer là-dessus avec vous trois, est-ce qu'on peut espérer de ce bicentenaire tel qu'il est en train de se dérouler jusqu'à la fin des années 10 ou début des années 20, mettons, un véritable chamboulement historique autour de ces interprétations de ce qu'a été, ce qu'ont été ces révolutions hispano-américaines, Geneviève Verdeau?
Écoutez,
ou
oui,
qu'il y a des résistances?
Des résistances
Liées à la mythification, liées à cette histoire magique qu'on a racontée pendant longtemps.
Peut-être moins que des résistances, des versions différentes selon les strates en fait de la population qui s'en empare et qui la diffuse. Mais moi, je crois assez qu'effectivement une nouvelle version de toute cette période est en train de s'imposer. Plus largement que dans les cercles académiques, je songe aux manuels scolaires, je songe à des livres savants qui sont en train d'être écrits en Amérique latine.
Et ça mériterait peut-être une grande entreprise historique ou historiographique et éditoriale, en France aussi peut-être.
Ah oui, sans doute, parce que ça reste un sujet quand même très très méconnu en France.
Véronique Aymard, sur ce point?
Alors, je pense qu'il y a d'abord une diffusion de cette nouvelle historiographie qui a germé dans les années 80. Ça, c'est évident. Il y a aussi, je pense, un peu une contre-histoire une contre-historiographie qui s'est formulée ces dernières années à la faveur de régimes politiques très à gauche, qui ont appuyé sur Chavez, un certain nombre d'éléments et qui ont leurs aspects positifs aussi, hein, qui ont permis de travailler un certain type d'acteurs, justement, les acteurs, les classes populaires et leur rôle dans ce processus d'indépendance.
Clément Thibault, pour conclure.
Oui, je pense que ces bicentenaires, c'est l'occasion, je dirais, pour le public en général, notamment européen, de montrer que ces indépendances, ça a été des révolutions, de véritables révolutions importantes après les États-Unis, après la France, Haïti, que dans les révolutions des Atlantiques, il faut compter avec ce moment qui est important. Et puis du point de vue, latino-américain, je pense que c'est aussi une redécouverte d'une tradition démocratique, des démocraties de la première vague, hein, comme dit Alain Rouquier, c'est-à-dire que finalement... Il a pu se développer un idéal, je dirais, démocratique, fondé sur la souveraineté du peuple, dans des espaces qui ne se sont pas, qui n'ont pas eu le même développement économique que les États-Unis ou l'Europe occidentale.
Et ça, merci à tous les trois d'être venus pour conclure cette semaine consacrée aux indépendantismes. Merci à vous, Séverine Yattard, d'avoir préparé avec nous et de l'avoir organisé autour du documentaire que vous avez réalisé avec Séverine Cassard mardi sur la figure de l'indépendantiste guadeloupéen Luc Reynette. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter toutes les émissions de la Fabrique de l'Histoire sur ce thème en allant sur le site tout nouveau, tout beau de France Culture qui vient d'être lui rénové et même révolutionné, pourrait-on dire, ce site donc où vous pouvez écouter les émissions de façon intégrale et infinie désormais, et également les télécharger pendant l'année qui suit leur diffusion. Véronique Hébrin, vous êtes auteur du Venezuela indépendant entre autres chez l'Harmattan, Clément Thibault au PUR, aux presses universitaires de Rennes, Républiques en armes, les armées de Bolivar dans les guerres d'indépendance du Venezuela et de la Colombie. Et pour vous, Geneviève Verdeau, l'indépendance argentine entre cité et nation. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marivonne Bolivier et Aurélie Marcet. À la technique avec nous aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontani. À la réalisation, Séverine Cassard. Voilà pour cette série de rediffusions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la Révolution française. La semaine prochaine, à cette même heure, Cézanne absolument, la grande traversée de Martin Kénéen et de Rafik Zénine autour de ce révolutionnaire de la peinture qui était Cézanne.